Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Signature hier à Washington d'une déclaration de principe pour la paix entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa insiste sur le respect par le Rwanda de toutes les résolutions qui exigent le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais. Et les États-Unis affirment leur soutien aux deux nations pour faire respecter les principes de la déclaration. C'est aujourd'hui que le pape François sera conduit à sa dernière demeure. Dans son testament, le Saint-Père avait souhaité des funérailles simples, rapporte des sources du Vatican. Pour en parler, nous recevons Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO et chapelain du pape. Et puis, l'église du Christ au Congo, SCC, section Congo Central, dit avoir identifié les mots qui entravent le décollage du Congo Central. Ceci ressort d'un travail effectué par les membres du comité exécutif provincial de l'SCC. Ce dernier appelle notamment les églises à enseigner à la population la résilience et l'espérance. Madame, Messieurs, bonjour. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a présidé hier vendredi à Washington la signature d'une déclaration de principe pour la paix et le développement économique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Rwanda. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a signé au nom du gouvernement congolais, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndungirehe, a signé au nom du Rwanda. Le secrétaire d'État adjoint, Christopher Landau, le conseiller principal pour l'Afrique, Massad Boulos, et l'ambassadeur Troy Fitrel se sont également joints au secrétaire Rubio pour cette occasion. Kinshasa insiste sur le respect par le Rwanda de toutes les résolutions qui exigent le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais. On écoute la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba.
Each step towards stability is a step towards dignity.
La stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et l'école. Telle est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la RDC, un pays qui non seulement sort d'un conflit, mais qui est aussi au cœur de la recherche des solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de l'Est, nous savons que vous observez ce moment avec inquiétude, avec espoir et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous tirons notre force de votre résilience, de votre engagement en faveur de la justice et de notre conviction commune et inébranlable que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même les destins nous ont donné des voisins que nous avons. Les frontières dont nous avons hérité, confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais.
As confirmed by the African Union, are permanent and will never change.
Côté rwandais, le diplomate affirme, je cite, « Notre objectif est de créer une région sûre, exempte d'extrémisme ethnique, violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut être un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en fait pour l'Afrique dans son ensemble. » Telle est la déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères. On écoute Olivier Ndungirehe.
Our goal is a secure region.
Notre objectif est de créer une région sûre, exempte d'extrémisme ethnique violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut être un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en fait, pour l'Afrique dans son ensemble. La déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif, donnant un nouvel élan aux efforts déployés par le processus mené par l'Afrique dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi qu'au volet de Doha, facilité par l'État du Qatar, où nous avons constaté d'importantes percées ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dès que possible, mais il n'y a pas de raccourcis ou de solutions rapides, et nous devons travailler dur pour y parvenir une fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer à travailler avec tous les partenaires de cette initiative.
Initiative. Et pour les États-Unis d'Amérique, la déclaration s'appuie sur les efforts de l'Union africaine et d'autres dirigeants régionaux. Elle trace une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la RDC, un élément essentiel pour mettre fin au conflit et permettre à la région d'atteindre son plein potentiel. Les États-Unis affirment qu'ils continueront à travailler avec les deux nations pour faire respecter les principes de la déclaration et soutenir les efforts cruciaux en faveur de la paix et de la prospérité. On écoute à ce sujet le secrétaire d'État américain Marco Rubio.
Une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la voie à des investissements américains et occidentaux plus importants, ce qui créera des opportunités économiques et de la prospérité. Elle contribuera également à faire avancer le programme de prospérité du président Trump pour le monde. C'est comme il l'appelle, un accord gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, pour les États-Unis, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nos entreprises sont de bonnes entreprises citoyennes, des entreprises américaines, et elles apporteront une bonne gouvernance et garantiront des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour des produits tels que les minerais essentiels qui profitent aux gouvernements régionaux et à nos partenaires et alliés. Ce développement économique associé à une paix durable, et je dirais que la paix durable précède le développement économique, elle est impossible à réaliser sans la paix. Permettra également à des millions de personnes déplacées de rentrer chez elles dans des communautés plus sûres avec des nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations.
C'est un dossier signé Polly Muzalia et Alain Rumushinja. Par ailleurs, la société civile congolaise dit constater avec indignation et profonde inquiétude son exclusion flagrante des discussions en cours à Doha avec le mouvement M23 ainsi que des tractations bilatérales entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo estime que ces discussions qui engagent l'avenir du pays se déroulent à huis clos sans témoins, sans garde-fous et sans les représentants légitimes de la population. Cette mise à l'écart traduit non seulement un mépris de la transparence, mais aussi un déni de la participation citoyenne, pourtant essentielle à toute dynamique de paix durable et de gouvernance responsable, affirme Jonas Tshiombela. Il est au micro de Alain Rumushinja.
Nous exigeons, 1. L'implication immédiate et active des organisations de la société civile dans toutes les étapes de discussion de Doha et dans les négociations RDC-États-Unis d'Amérique. 2. La mise en place d'un mécanisme transparent d'information, de suivi et d'évaluation des pourparlers avec la participation des représentants des communautés concernées. 3. Enfin, une reconnaissance institutionnelle du rôle de la société civile comme partenaire stratégique de paix, de justice et de bonne gouvernance. Faute de quoi, nous tenons à avertir que les négociateurs porteront seuls la responsabilité des dérives, échecs et frustrations populaires qui découleront d'accords conclus en vase clos.
Autre nouvelle, le collectif de 50 députés nationaux s'est dit vivement préoccupé par les crises sécuritaires, humanitaires, sociales, sanitaires et environnementales en RDC et dénonce la marginalisation du statut des députés. Dans une déclaration hier à Kinshasa, le C50 exige au procureur général près la Cour constitutionnelle à s'excuser publiquement et à déposer sa démission pour outrage au Parlement. Ces élus recommandent également au président Vital Kamerhe de notifier officiellement la haute cours de la position de la plénière de l'Assemblée nationale sur la non-levée des immunités de Matata Ponyo et plaide pour l'alignement de toutes les initiatives du contrôle parlementaire. Le porte-parole de C50, le député Ladi Yango Tikala, explique au micro de Michel Kifindangoy.
Le statut de député national est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et le mandataire actif ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo, Le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière, non seulement honorable, susvisé et détenteur des immunités parlementaires, mais aussi et surtout les immunités levées du sénateur, alors concernaient plutôt les biens aérianisés que le dossier Bukangalonzo. Ce n'est ni plus ni moins un outrage à l'Assemblée nationale.
Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, le pape François sera inhumé ce samedi à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Selon des sources du Vatican, dans son testament, il avait souhaité des funérailles simples. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO et chapelain du pape, explique que le pape François sera inhumé comme il a vécu, dans la simplicité. On écoute Monseigneur Chollet au micro d'Alain Rongmouchinj.
Je crois qu'il a voulu mourir comme il a vécu. Dans son testament relatif à ses obsèques, il est resté vraiment dans la simplicité, un seul cercueil, pas trois, en bois, et qu'on le mette dans la terre, pas assez de décorations. Et comme inscription, ça c'est vraiment intéressant, il a demandé qu'on écrive simplement Franciscus, pas Pape François. Donc ça c'est un grand message pour dire que devant le Seigneur, ce ne sont pas les titres qui vont être pris en considération. Il a choisi François parce que François, ce nom, il a pris pour vivre comme Saint François, pauvre parmi les pauvres, avec les pauvres et pour les pauvres. Et c'est ça qui va compter. Donc le Seigneur va nous juger. Mais vous avez été un grand pape, vous avez fait beaucoup de voyages. Non, bon, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Voilà, donc c'est avec ce message-là que le pape signe la fin de sa vie.
Et c'est dans le cadre des funérailles du pape François que le président Félix-Antoine Tshisekedi a effectué un déplacement à Rome en Italie. Funérailles qui auront lieu aujourd'hui à la Cité du Vatican. Information contenue dans un communiqué publié hier par la presse présidentielle. Par sa présence à ces funérailles officielles, le chef de l'État tient à rendre un dernier hommage au souverain pontife qui n'avait cessé de manifester sa sollicitude à l'endroit du peuple congolais à travers ses intentions de prière pour la paix. Au cours de cette visite de compassion, le président de la République va rencontrer les responsables du Vatican avec qui la République démocratique du Congo entretient d'excellentes relations séculaires. La visite apostolique du pape François du 31 janvier au 2 février 2023 reste inoubliable au sein de l'Église Famille des Dieux qui est en RDC, indique le communiqué. Entre-temps, l'Église catholique de Kinshasa a célébré hier une messe d'action de grâce en hommage au pape François. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La cérémonie a été présidée par le nonce apostolique, Monseigneur Mija Leskova. La première ministre Judith Suminwa y a pris part au nom du chef de l'État. Greta Lulendo aussi y a participé. Voici son reportage.
De nombreuses personnalités politiques, des diplomates, des membres du clergé ainsi que des fidèles venus des quatre coins de la capitale se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage au souverain pontife. Selon Mgr Mitya Leskova, le pape François s'est toujours engagé pour la paix en République démocratique du Congo.
Après ma nomination, avant de partir pour Kinshasa, je suis passé chez lui et j'ai vu avec quelle affection il a parlé du Congo. C'était vraiment très fort. J'ai pu constater que la visite au Congo l'a touché vraiment profondément. Quelqu'un qui a profondément aimé le Congo, qui a souffert pour la souffrance de son peuple et qui s'est adopéré beaucoup aussi pour le pays, pour la réconciliation.
J'étais profondément marqué par la visite du pape François en RDC. C'est un souvenir que je garde précieusement, confie Ornella Gracias, fidèle catholique.
J'ai vu le pape en live, c'était vraiment une expérience particulière. Pour moi, le pape, c'est vraiment une incarnation de la spiritualité pour nous, les chrétiens catholiques. Un témoignage à vie que je garderai, que je raconterai à mes enfants et pourquoi pas eux à leur tour aussi, parce qu'il nous a pertinemment marqué.
Notons que les funérailles du pape François seront retransmises en direct depuis le Vatican ce samedi 26 avril à 9h à la cathédrale Notre-Dame du Congo.
Thank you. Rendons-nous au Congo central. Le comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo, ECC, vient d'identifier, selon lui, les maux qui entravent le décollage du Congo central dans la quasi-totalité des domaines de la vie. Sur le plan économique, par exemple, il évoque la persistance du système d'embauche sur recommandation des hommes politiques de Kinshasa au détriment des jeunes habitants du Congo central. Ce travail a été fait par les membres du comité exécutif provincial de l'ECC à l'issue de la clôture de la 46e session ordinaire annuelle tenue à Matadi du 23 au 24 avril. Dans une déclaration sanctionnant ces assises, le comité exécutif provincial de l'ECC Congo central appelle les églises à enseigner à la population la résilience et l'espérance. Elle invite la société civile dans sa diversité à poursuivre sans relâche la lutte pour la défense des droits humains et la dignité humaine. Déclaration lue par le révérend Samuel Mankoko, propos recueillis par Nana Plurish Mambou.
La situation actuelle de notre chère province est marquée par des attentes du bien-être social qui tardent encore. Dans la quasi-totalité des domaines de la vie, nous observons entre autres les embouteillages infernaux dans nos villes et accidents à répétition sur le national numéro 1. Dans les domaines économiques, la persistance du système d'embauche sur recommandation des hommes politiques de Kinshasa au détriment des jeunes habitants du Congo central. Les dividendes générés économiquement par la province ne servent pas du tout à la population du Congo central. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires ayant des retombées très graves sur la vie de la population. Dans les domaines socioculturels, la dépravation des mœurs ne fait qu'augmenter dans les villes et cités. Les phénomènes de ventes illégales à grande échelle des terres agricoles. Dans les domaines sécuritaires, l'infiltration des étrangers achetant des terres aux autochtones. La terreur et la désolation causées par des hommes armés non autrement identifiés.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon. La Cour constitutionnelle gabonaise valide la victoire écrasante de Brice Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril. Le général devenu civil, après avoir renversé Ali Bongo en 2023, entamera officiellement son mandat de 7 ans le 3 mai prochain. La transition politique ouverte au Gabon après le coup d'État d'août 2023 touche ainsi à sa fin. Cette élection présidentielle marque la fin d'une période de transition de près de 20 mois.
L'invité.
Vous savez, le pape François sera inhumé ce samedi à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Pour en parler, nous recevons Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CNCO et chapelain du pape. Il est avec Alain Rongmouchinj.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Le pape François sera inhumé ce samedi 26 avril. Il avait demandé des obsèques assez simples. Selon vous, en quoi cela peut consister?
Eh bien, je crois que il a voulu mourir comme il a vécu. Dans son testament relatif à ses obsèques, il est resté vraiment dans la simplicité. Un seul cercueil, pas trois, en bois, et qu'on le mette dans la terre, pas assez de décorations. Et comme inscription, ça c'est vraiment intéressant, il a demandé qu'on écrive simplement Francesco, pas pape François. Donc ça c'est un grand message pour dire que devant le Seigneur, ce ne sont pas les titres qui vont être pris en considération. Il a choisi François parce que François, sinon il a pris pour vivre comme Saint François, pauvre parmi les pauvres, avec les pauvres et pour les pauvres. Et c'est ça qui va compter. Donc le Seigneur va nous juger. Mais vous avez été un grand pape, vous avez fait beaucoup de voyages. Non, bon, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Voilà, donc c'est avec ce message-là que le pape signe la fin de sa vie.
Il est toujours évoqué cette possibilité d'un pape africain. Selon vous, dans quel cas cela pourrait-il être envisageable?
Ben, écoutez, il n'y a pas quelque chose de particulier qui doit être fait pour qu'on ait un pape africain, tant plus qu'il y a déjà des cardinaux africains électeurs et éligibles. On ne donne pas les critères de choix aux électeurs que sont les cardinaux, chacun en conscience, par sa formation, par son ministère, c'est ce que représente le Saint-Père dans l'Église, les critères pour être à la mesure par rapport au contexte socio-mondial aujourd'hui. Et chaque évêque en conscience, dans la prière, j'insiste, dans la prière, à l'écoute de l'Esprit Saint, va faire son choix. Ça peut être un Africain, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est que, et nous devons prier pour ça, que l'Esprit Saint, qui certainement sera là, soit reçu par chacun des cardinaux, que chacun des cardinaux soit ouvert à l'Esprit Saint, pour que nous ayons un pape selon le cœur de Dieu, quelle que soit sa provenance.
Le pape François était ici en RDC. Qu'est-ce que, selon vous, les politiciens congolais, les religieux, les laïcs, les jeunes congolais peuvent retenir du message qu'il avait passé ici pour qu'il soit pérennisé?
Bon, les politiciens congolais, le message de pape doivent retenir que la politique, c'est le service de la population. On fait la politique pour servir, c'est la gestion, la chose commune, et non se servir, et non exploiter, non malmener. Voilà pourquoi, dans son adresse avec le politicien, il est revenu là-dessus, les invitant à mettre l'homme au centre de leurs préoccupations politiques. Aux religieux que nous sommes, le pape nous a adressé les paroles fortes à la cathédrale, nous invitant à nous centraliser dans notre spiritualité, dans la prière. Et il a attiré notre attention par rapport à la mondanéité. Donc, il nous a invités à être d'abord des hommes de Dieu et de nous ressourcer dans l'Eucharistie, de nous ressourcer dans la prière pour qu'on ne soit pas de bois sec. Et en même temps, en parlant aux évêques, il a encouragé la mission prophétique. Il a donné un modèle, le cardinal Monsengo et Monseigneur Muziriwa. Nous savons ce qu'ont été ces deux évêques sur le plan sociopolitique. Donc ça aussi, nous devons retenir. Les jeunes qui l'ont écouté avec l'image de la main, je crois qu'ils ont beaucoup à méditer. Donc une jeunesse qui doit être plus responsable, une jeunesse engagée avec sa foi, pour contribuer à améliorer l'avenir de ce pays.
Monseigneur Donatien Chollet, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.